Vous écoutez
RMC. C'est Intégral Sport.
Oh, c'est gagné. Oh, Paris remporte la Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, et oui, vous l'avez vécu en direct sur RMC, c'était hier soir à Budapest, cette victoire à l'issue de la séance de tir au but qui permet au Paris Saint-Germain de décrocher sa deuxième étoile, de faire le fameux back-to-back. Et oui, c'est la première fois depuis le Real Madrid, et bien qu'une équipe parvient à remporter deux fois de suite la Ligue des Champions, et toute la France, ou presque, est en émoi après cette victoire. On va évidemment y revenir, on va fêter le retour des héros qui ont pris pas mal de retard et qui seront attendus dans la capitale dans une heure et demie maintenant. On va aller voir tous nos envoyés spéciaux. Notre dispositif est incroyable aujourd'hui pour suivre le retour de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et pour fêter le PSG, qui de mieux que Soulé Diawara, qui a marseillé pour fêter ça. Ça va, Soulé? Comment ça va depuis hier soir? Est-ce que tu as défilé sur les Champs-Élysées?
J'ai voulu te défiler, mais mon corps ne voulait pas. Mais sinon, ça va très bien, très bien. Bon, on va rigoler un petit peu.
Ah bah, bien sûr qu'on va rigoler un peu, parce que même si évidemment l'antagonisme entre Marseille et Paris, c'est magnifique pour le football français dans son ensemble, et pour la Ligue 1, pour le reste, quoi. C'est pour tout.
Ouais, mais c'est super cool pour le football français. Encore une fois, le football français sur le toit de l'Europe. Grâce à cette victoire historique où ils sont deux fois de suite champions d'Europe.
Et jamais les premiers avec deux étoiles en France, quoi.
Ça y est, je crois qu'ils vont, ils vont rouler le
score. Ça va changer.
C'est fini. Jamais les premiers. Mais bon, c'est bien pour le football français. Mais la deuxième étoile a fait un peu mal.
Ah ben c'est sûr, évidemment. Tu vas te rattraper avec France-Sénégal dans quelques jours en Coupe du Monde.
J'espère bien.
Qui sera le premier match de l'équipe de France, premier match du Sénégal dans cette Coupe du Monde. Ouais. On rappelle que tu as porté le maillot des Lions combien de fois? Une quarantaine de fois.
48 fois.
Et que tu seras supporter du Sénégal, même si tu as un peu la double identité quand même.
J'ai eu la chance de porter le maillot, défendre le drapeau du Sénégal, donc bien évidemment je serai supporter du Sénégal, mais je suis supporter aussi de la France.
Ça va être un match difficile à vivre, là encore, pour toi. Et décidément, les moments.
En ce moment-là, c'est pas très bon.
C'est compliqué. Arthur Perrault vient de nous rejoindre. Oh, la petite mine.
Salut Christophe.
Bonjour à tous. Petits yeux, il n'a pas dormi beaucoup, celui-ci.
Une petite heure dans l'avion.
Une petite heure dans l'avion,
oui,
quand même.
Une petite heure.
Bon, comment était la fête, la soirée, la nuit?
Courte, très courte, comme pour les joueurs qui sont rentrés à leur hôtel en centre-ville de Budapest avec toutes les familles qui les ont rejoints, voilà, dans le New York Palace en plein centre-ville de Budapest. Il y avait une immense salle des fêtes qui avait été préparée pour l'occasion, et voilà, les joueurs qui ont fêté ça jusqu'à très très tôt ce matin. Il y a eu des scènes assez drôles, il y avait notamment le rappeur Travis Scott qui était là, il y avait notamment Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui est venu fêter ça aux côtés du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi. Puis les joueurs, je vais vous décrire quelques scènes, Marquinhos qui a tenu un long discours et qui a rappelé notamment le slogan répété par les supporters ces derniers jours: une fois c'est historique, deux fois c'est légendaire. Et puis c'est surtout Achraf Hakimi qui a joué le rôle d'animateur de soirée, qui a gardé le micro pendant une bonne partie de la nuit, presque en maître de cérémonie. Mais voilà, c'était vraiment le message insisté par l'ensemble du groupe parisien après ce titre. C'est, avant de parler d'une troisième étoile potentielle, celle-là faut vraiment la fêter, la profiter. Et ça, ils ont tenu à cela. Ça a été vraiment minutieusement préparé, organisé aussi par les familles. J'ai rarement vu toutes les familles au grand complet de tous les joueurs, et vraiment tous les joueurs. Je pense à la famille Joao Neves, la dernière fois ils n'avaient pas pu tous venir du Portugal. Là vraiment toute la famille était là dans l'émotion, la famille Hakimi aussi, la famille Dembélé, la maman qui est rentrée en avion ce matin, qu'on a pu croiser à l'aéroport. Enfin, c'est totalement dingue, et c'est vraiment la grande famille Paris Saint-Germain au sens large qui était là cette fois-ci pour ce deuxième titre, et c'était vraiment le plus important.
Ouais, c'est des moments rares hein, dans dans la vie d'un footballeur, d'un athlète de haut niveau, de pouvoir fêter de tels titres sous les, c'est magique pour tous ces joueurs-là. Et surtout que ça vient au bout d'une saison tellement longue, il a failli s'arracher tout le temps ou presque.
Ça a été une saison extrêmement longue pour les Parisiens, parce que c'est vrai que déjà la saison dernière, ils avaient fait énormément de matchs.
Ah, ils avaient fini avec la Coupe du Monde des clubs. Ils ont quasiment pas eu de vacances.
Ils ont pas eu de vacances. Ils ont été gênés par les pépins physiques de pas mal de joueurs. Et pas mal de choses qui étaient en leur défaveur, mais ils ont tenu bon, ils ont gardé ce caractère qu'ils avaient, qu'ils affichent depuis le retour de Luis Enrique. Et ils ont été récompensés à la fin avec ce deuxième sacre de champion d'Europe. Et c'est amplement mérité, parce qu'au vu de la saison, au vu de ce qu'ils nous ont montré durant la saison, ils méritaient amplement ce titre de champion d'Europe.
Alors ça a été largement fêté, évidemment, à Budapest, mais aussi à Paris,
c'est
sur
le début.
Sur le territoire français. Ben oui, tu as raison de le signaler.
Bon, ils vont pas trop fêté, puisqu'il y a une autre compétition.
Ah ben
qui
ouais,
arrive,
pour les internationaux, oui, ça va être. Tu nous parleras d'ailleurs du programme à venir pour ceux qui vont rejoindre Clairefontaine. Dans quelques heures, il y en a quand même quelques-uns, puisque une partie du groupe France est déjà sur place. Je sais pas d'ailleurs comment ils ont vécu la soirée. Je pense que
ils ont regardé le match tous ensemble. Ils ont regardé le match tous ensemble hier soir dans les salons du château à Clairefontaine.
Kylian,
avec le sélectionneur Didier Deschamps, Kylian Mbappé a regardé le match.
Bien sûr. Ou non,
non, je pense pas. Mais ils ont pris le temps de tous regarder. Et puis Didier Deschamps le disait chez nos confrères de Téléfoot un peu plus tôt ce matin. Bah voilà, c'est en tant que sélectionneur, il ne peut qu'être satisfait. C'est quand même une sacrée bonne nouvelle pour lui, même si on surveillera l'état de forme de Ousmane Dembélé qui est sorti en fin de rencontre hier soir. Mais pour lui, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle d'avoir des joueurs performants qui brillent sur la scène européenne, qui arrivent sans frustration, sans déception, avec en ayant atteint le Graal une nouvelle fois. Enfin, en tant que sélectionneur de l'équipe de France, il ne peut que se réjouir de ce type de nouvelles.
Ouais, même si évidemment, Souleymane, il va falloir quand même surveiller l'état physique, parce que on le disait, la saison dernière a été très longue, celle-ci a été très intense aussi. Tu arrives au bout, tu obtiens ton premier Graal. Derrière, il faut se reconcentrer, se remotiver pour une autre compétition.
Il va falloir se reconcentrer. C'est pour ça que je disais qu'ils vont pas non plus trop célébrer, puisqu'il y a encore la grosse compétition qui est la Coupe du Monde qui est là. Il va falloir gérer les joueurs. Surtout, on a vu Ousmane Dembélé qui est sorti. Je crois qu'il avait une petite pointe au niveau
dans le temps additionnel. Ouais, exactement.
Donc il y a ça à surveiller, il y a les joueurs aussi, les autres, que ce soit Désiré Doué, Barcola, mais tous ceux qui sont allés jusqu'à la finale, Saliba aussi.
Bien sûr.
Donc il va falloir, je pense qu'ils ont un staff compétitif et ils sont assez professionnels, les joueurs plus le staff, pour pouvoir gérer cette situation.
Enfin, de toute façon, la préparation pour la Coupe du Monde va être très courte.
Bien sûr.
Je crois qu'il y a 16 ou 17 jours seulement.
C'est ça.
Le but, ça va surtout être de permettre aux joueurs de récupérer, de se remettre un peu en état. Je parle pas seulement des joueurs du PSG,
bien sûr,
de tout le monde, parce que.
Mais parce que c'est l'enjeu clairement de cette préparation. La saison a été interminable pour tout le monde. En effet, il y a plusieurs gros clubs dont sont membres les internationaux français qui ont participé en juillet dernier à la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Donc voilà, il y aura de la gestion d'organisme au début. Évidemment, il faudra surveiller tout le travail du staff médical de l'équipe de France et de l'accompagnement du médecin Franck Le Gall, justement au début de ce rassemblement. Alors, il a déjà débuté, en soi, tu le disais, Christophe. Les joueurs du Paris Saint-Germain devraient arriver demain et après-demain, puisque mardi, le président de la République rendra visite à l'ensemble du groupe France à Clairefontaine. Donc ce sera un moment important où vraiment tout le monde doit être présent. Mais d'ici là, c'est vrai que ça va être la chose à surveiller dans cette équipe de France. La gestion des organismes.
Bon, j'espère qu'ils vont pas faire la fête comme l'ont fait d'autres champions d'Europe la semaine dernière du côté de l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles.
Sur trois jours.
Et ça a duré 3 ou 4 jours. Et les mecs ont pas enlevé leur maillot.
Là, ils iront pas.
La fête pendant 4 jours.
Je te rassure, ils n'iront pas à la corniche, cette fois-ci.
Ils n'iront pas à la corniche. Les footballeurs sont quand même plus sérieux que les rugbymen de ce côté-là. Pour fêter les
rugbymen, ils sont plus robustes. Ils peuvent se permettre de faire.
Ils encaissent mieux. Ils encaissent mieux. C'est ça.
Bon, ça a été énorme. D'ailleurs, il y a un match cet après-midi on va voir dans quel état ils sont, les joueurs de Bordeaux. Ce sera tout à l'heure à 16h30. Alors, on va faire le tour de nos envoyés spéciaux. Donc, notre ami Arthur qui a fait le déplacement, qui est rentré exprès de l'aéroport pour être en direct en plateau cet après-midi pour nous parler de tout ça. Et puis, il y a un dispositif incroyable. On attend les joueurs du Paris Saint-Germain un peu partout. On va tout de suite partir pour Roissy puisque l'équipe du PSG était attendue aux alentours de 14h, 15h, mais que ça a pris du retard. L'avion est actuellement en vol. Il est prévu qu'il atterrisse vers 16h30, je crois. David Alias est à Roissy où il scrute le ciel. Salut David.
Salut Christophe, salut à tous. Ouais, je scrute le ciel en attendant l'arrivée des joueurs du Paris Saint-Germain et l'arrivée de la pluie également, un petit peu en même temps qu'ils s'invitent à la fête. Ça s'anime à Roissy, des centaines de motards sont arrivés au pavillon réception, là où je me trouve, dans un périmètre encadré et balisé par les forces de l'ordre. Et tout le monde attend avec impatience le retour en France des champions d'Europe qui sont désirés, tu l'as dit, avec grosseur de retard. C'est ce que les supporters ont découvert au compte-goutte avec un peu de déception, mais ils me l'assurent. Ils sont là pour attendre leur champion. On a vu aussi les bus des Parisiens bloqués champions d'Europe avec les deux étoiles dorées. Et les supporters l'assurent, ils les suivront jusqu'au 100 mars. L'ambiance monte ici à Roissy et le comité d'accueil des joueurs de fête de s'agrandir.
Bon, ça va être sympa. Pour les gens qui rentrent de week-end sur l'autoroute du Nord, là, en direction de Paris, ils vont être contents quand ils vont voir l'incroyable défilé derrière le bus du Paris Saint-Germain. Donc, un conseil pour ceux qui rentrent de week-end, dépêchez-vous d'emprunter la 1 et de rentrer à Paris parce que derrière, ça va être une belle panique. Beaucoup, beaucoup de monde, donc, pour encadrer le bus du PSG et qui va l'amener jusqu'au Champ de Mars. Le programme est d'ailleurs impressionnant, hein. Ça va durer toute la soirée. Il y a le Champ de Mars. Après, il y aura un réception à l'Élysée.
À 18h, exactement. À 18h. Et derrière, le groupe parisien rejoindra le Parc des Princes pour, comme l'année dernière, une célébration. Début estimé vers 20h. Il y aura peut-être un petit peu de retard sur le programme. Il faudra surveiller ça dans l'après-midi. Mais tout va s'enchaîner très rapidement. Et puis, on se doute, il y aura sans doute une petite soirée organisée en toute discrétion ce soir. Pareil, il faudra surveiller tout cela. Mais comme le disait Soulet, je ne pense pas que ce sera entre eux une fête démesurée comme les joueurs de rugby dont tu parles il y a quelques instants, Christophe. Mais je pense qu'ils vont organiser de nouveau quelque chose entre eux une nouvelle fois ce soir ici à Paris.
Et puis il y en a certains qui sont en vacances quand même ce soir. Ils sont pas.
Oui, le staff notamment. Ouais. L'entraîneur Luis Enrique l'a dit.
Luis Enrique, on l'écoutera tout à l'heure, mais il avait.
Il a donné son programme. C'est-à-dire que si vous voulez suivre Luis Enrique pendant les vacances, vous savez, il va retourner chez lui à Riron. Ensuite, il va aller à Barcelone puisqu'il a gardé une maison à Barcelone où il rejoint sa femme et ses enfants. Et il a dit qu'il allait sans doute partir à Mallorca un petit peu, histoire de prendre un peu le soleil, profiter des plages. Donc si vous voulez le programme des vacances de Luis Enrique, c'est Riron, Barcelone, Mallorca. Voilà.
Et puis le mec va bronzer et faire du vélo. On sait qu'il est dingue.
Son programme, c'est du classique. Là,
il va faire du sport.
C'est une valeur sûre.
Il va se mettre à l'envers pendant un mois. On le verra pas dans les boîtes d'Ibiza, tous les a priori. Hein.
Je pense pas. Il va rester focus dans le sport. Ouais. Ah mais c'est bien. Il mérite. Après une très longue saison, c'est bien de couper, d'aller souffler, de penser autre chose que le football. Donc, il a bien raison, Luis Enrique. Ouais.
Bah oui, surtout l'année dernière, c'est pareil.
Deux semaines de vacances l'année dernière.
Ça. Derrière,
avant la reprise.
La Coupe du Monde des clubs.
La Super Coupe d'Europe. Ah oui. Aussi qui avait repris.
Ça fait du bien de temps en temps. Ça permet de se régénérer, de repartir vers d'autres objectifs. Et il y en aura plein des objectifs pour le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc ils sont attendus à Roissy. Ensuite direction le Champ de Mars. Là aussi beaucoup de monde a pris place sous la Tour Eiffel ou presque pour attendre les joueurs du PSG. On va retrouver Kevin Morand qui lui aussi est installé au Champ de Mars avec quelques petits copains autour de lui. Salut Kevin, il y a beaucoup de monde. Hein.
Salut Christophe, il y a beaucoup de monde en effet, je me suis un peu écarté pour pouvoir vous parler parce que le réseau est évidemment un peu capricieux, les portes ont ouvert depuis une heure environ et donc les premiers blocs les plus proches de la Seine qui se trouvent devant la Tour Eiffel sont en train de se remplir, on attend d'ouvrir les blocs qui sont plus du côté de l'école militaire, que ces premiers blocs soient pleins, il y a des écrans géants également installés sur tout le long de ce Champ de Mars pour que tout le monde puisse bien voir, il y aura donc un terre-plein central pour que les joueurs puissent défiler depuis l'école militaire pour remonter vers la Tour Eiffel et une grande scène donc au milieu de la fontaine qui est au niveau de ce Champ de Mars où les joueurs également sont attendus autour de 17h maintenant et environ 90 000 à 100 000 personnes attendues ici sur le Champ de Mars. Il fait beaucoup moins chaud qu'hier, une vingtaine de degrés, pas trop de soleil, nuageux, mais donc des conditions parfaites pour continuer la fête cet après-midi, ici, célébrer cette deuxième Ligue des Champions.
J'imagine que les forces de l'ordre doivent également être en force cet après-midi autour du Champ de Mars, après les violences qui ont malheureusement suivi la victoire du PSG hier soir, violences non seulement à Paris, mais également dans d'autres villes de province. Hein.
Oui, il y a beaucoup de forces de l'ordre, un périmètre large de sécurité, interdit à la circulation entre le 15e et le 7e arrondissement, 500 mètres environ autour de ce Champ de Mars, donc neutralisé pour permettre aux supporters de venir dans des conditions de sécurité satisfaisantes jusqu'ici et pouvoir célébrer également pour que l'accès du bus du Paris Saint-Germain se fasse dans de bonnes conditions tout à l'heure et puis qu'ils puissent également regagner ensuite l'Élysée puis le Parc des Princes un peu plus tard dans la journée.
Très bien, merci Kevin. On te retrouve évidemment tout à l'heure. Tu essayes de nous trouver des supporters. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont fait des grosses nuits ou si ils ont fait des petites nuits comme notre ami Arthur. Et les petits yeux quand même, des tout petits yeux cet après-midi.
Normal.
Hein, tu devrais aller avec Soulé, va t'apprendre un peu ce que c'est de faire la fête.
Je suis à la retraite à ça.
J'ai encore des cours à prendre.
Bon, en tout cas, drôle de match, drôle de finale à laquelle on a assisté hier soir. C'est vrai qu'après la finale incroyable de l'an dernier, cette avalanche de buts face à l'Inter, on pouvait espérer le même genre de match comme il y a eu en demi-finale face au Bayern. C'était sans doute le plus beau match de la saison. Mais ça a été un drôle de finale quand même. Cadenassé, avec une équipe qui refuse de jouer.
Bref. C'est ce que tout le monde prédisait, hein, une rencontre plutôt serrée. Même si Mikel Arteta en avant-match avait dit, vous allez voir, ça va être showtime. Dans le sens, il faut s'attendre à avoir le même type de match que face au Bayern Munich lors de la demi-finale aller, mais finalement, et c'est le résumé de toute cette saison du Paris Saint-Germain, c'est un succès, un trophée soulevé dans la douleur, dans la souffrance, là où Paris a retrouvé ses valeurs de réussir à surmonter les difficultés et réussir à trouver une issue alors que le club se trouve dans une impasse. C'est le cas depuis juillet avec cette préparation écourtée. On en revient encore à cela. Les pépins physiques à répétition. Pas comme par miracle, Paris arrive à retrouver un groupe au grand complet pour cette finale. C'est presque inespéré, mais le plan de bataille de Luis Enrique a fonctionné. Il y a un match qui est quand même très compliqué, hein, où Arsenal a de sacrés temps forts et de sacrées occasions, mais Paris s'en sort au bout du bout du bout. Et encore une fois, et Vitinha en parlait en conférence de presse hier, ça ne pouvait pas se passer autrement. Ça a été une souffrance toute l'année. Et hier soir, ça a été une souffrance et Paris s'en sort dans la douleur. Et voilà. Alors, en espérant que ça se passe autrement la saison prochaine. À chaque saison, son rythme et son épilogue. Mais hier soir, voilà, c'était vraiment, encore une fois, cette histoire jusqu'au bout.
Soulé, tu t'attendais à ce genre de finale? Tu as été déçu par le match, la tournure du match? Ou tu t'y attendais finalement avec cette équipe d'Arsenal qui a construit sa saison et sa réussite cette saison là-dessus, quoi, sur une défense de fer?
C'est vrai que quand on parlait du Paris Saint-Germain, de cette demi-finale face au Bayern de Munich, on s'attendait à voir peut-être un type de match pas quasi pareil, mais pas loin, puisque Arteta disait que ça va pas être fermé, ça allait être ouvert, ça allait partir dans tous les sens, et à la fin, quand on regarde le match, on a de quoi être déçu, parce que c'est une finale et l'équipe d'Arsenal n'a pas joué, alors que il y a un trophée en jeu, et c'est ça où j'ai été un peu déçu, où ils ont fermé le jeu. Bon, après, je vais dire, comme cette saison, c'est un peu à l'image de leur saison, même si ils ont été champions encore une fois, où on les a félicités, mais c'était pas un grand Arsenal, et je pense pas qu'ils puissent, malgré les 5 premières minutes où ils ont eu l'occasion, ils ont mis le but. J'ai pas trouvé un Arsenal dangereux qui puisse permettre de mettre le Paris Saint-Germain en danger, quoi. Donc oui, j'étais un peu déçu de la performance de Arsenal, mais encore une fois, Paris a montré encore toutes ses qualités footballistique hier face à une équipe fermée, quoi. Ouais,
sans s'énerver plus que ça, hein, les Parisiens, c'est sans doute l'expérience. Ils ont essayé de trouver la clé pour ouvrir le coffre-fort. C'est vrai qu'ils auraient pu commencer à douter, à s'énerver, à commettre des fautes, mais ils sont restés assez zen finalement dans leur.
Il y avait de quoi s'énerver, hein, parce qu'en face, ça jouait la montre régulièrement. Évidemment, c'était un véritable combat physique, hein, et quand même pas mal de fautes pendant cette rencontre. Mais et on en revient encore à ce personnage-là, c'est Luis Enrique qui et dans le stade ça se voyait et plus que d'habitude, plus que lors des matchs de Ligue 1 entre guillemets lambda. C'est lui qui temporisait ses hommes, leur faisait signe de se calmer dans certaines situations. Quand il envoyait certains commencer à s'agacer, à faire certains gestes d'énervement, il leur demandait tout de suite, voilà, calmez-vous. C'est le métronome. Alors au-delà des choix tactiques, on pourra en reparler. Hein, est-ce qu'il fallait vraiment mettre Hakimi titulaire? Il a exprimé d'ailleurs ses regrets en conférence de presse d'après match. Il estime avoir été trop dur avec Warren Zaïre-Emery et de l'avoir mis sur le banc au début de cette rencontre. Mais c'est lui qui, dans ce type de grand rendez-vous, arrive à contrôler tout le monde et arrive à contrôler cet effectif. Et hier soir, ça a fonctionné. Lors de la séance de tir au but, ça se joue aussi à ça. Ça se joue aussi au tempérament, à l'influence. Enfin, c'est pas Soulé que je vais l'apprendre. Il le sait mieux que quiconque. Et c'est aussi peut-être à ça que Matvei Safonov a réussi à influer cette séance de tir au but hier soir.
Bah oui, des tireurs.
Il arrive souvent à rentrer dans la tête
Même s'il n'en arrête aucun finalement. Mais il fait des jouets.
Il est toujours. Il part au bon moment. Il est sur les trajectoires. Et le fait aussi peut-être que le tireur rate aussi, c'est parce que Safonov aussi a anticipé quelques pas, et donc ça a peut-être permis aussi aux joueurs d'Arsenal de rater leur penalty, mais c'est sûr que Safonov il rentre bien dans la tête des joueurs.
Ouais, la réputation d'un gardien, Arthur, un gardien qui a justement la réputation d'arrêter les penalties,
ouais.
Ça a aussi son influence.
Alors pour la petite histoire, il avait reproduit, souvenez-vous, ça s'était passé lors de la finale au Koweït face à Marseille, où l'entraîneur des gardiens Borja Alvarez lui avait donné une serviette rouge. Mmh. Je sais pas si vous vous souvenez de cette image qui avait été diffusée dessus, il y avait la photo de tous les joueurs de l'équipe adverse avec des consignes de là où ils devaient plonger, exactement. Et il y a eu la même scène hier soir, c'est-à-dire que à peine la fin des prolongations sifflées par l'arbitre, je l'ai vu courir rejoindre tout de suite le banc de touche pour s'installer à côté de Borja Alvarez, l'entraîneur des gardiens, serviette rouge, les mêmes consignes. Et bon, ça a moins bien fonctionné hier soir dans les faits, parce qu'il il en a pas arrêté un.
Il est souvent parti du bon côté.
Voilà. Mais en fait, il faut aussi louer son calme pendant toute la rencontre. Il n'a pas eu tant de boulot que ça hier soir, même s'il y a eu des touches dangereuses, des touches longues, des coups de pied arrêtés. Mais
son attitude a pu paraître étonnante sur
il est toujours nonchalant il est toujours nonchalant
le but d'Arsenal.
Oui,
c'est gestuel, après, est un peu bizarre.
Il est là au premier poteau, mais c'est compliqué de véritablement couvrir ce premier poteau parce que c'est un tir à bout portant. C'est un boulet de canon juste devant lui, donc c'est difficile.
Je suis pas gardien de but, mais ça doit être très compliqué. Il est à peine à 2-3 mètres, un gros boulet.
Il couvre le bas et puis
il essaye de mettre le haut aussi un peu.
Il essaie d'agrandir son corps pour avoir moins d'espace pour le tireur, mais le joueur d'Arsenal, elle l'aimait bien aussi. L'aimait bien parce que moi, au tout début, je pensais qu'il l'avait mis à côté, mais finalement, je vois qu'il court, il est parti fêter ce but, donc c'est bien.
C'est un sacré personnage. Et évidemment qu'on en reparlera pendant le mercato d'été. Je ne pense pas honnêtement qu'il y aura de sujet concernant les gardiens du Paris Saint-Germain, mais il a réussi à s'intégrer parfaitement à ce groupe. Il est vraiment apprécié de tous. Et c'est vraiment quelqu'un qui met l'ambiance au quotidien au Paris Saint-Germain, qui a beaucoup d'humour, qui sait aussi être très discret, très disponible.
Avec Zabarni, ça va bien.
Vous voulez qu'on en parle parce que tout le monde a vu cette scène où il ne serre pas la main lors du match amical. Mais en fait, il faut remettre cette scène-là dans un contexte. Ils ne peuvent pas apparaître ensemble en se serrant la main. C'est impossible. C'est-à-dire que si cette scène est filmée ou prise en photo, ils ont des problèmes derrière. Donc, moi, je peux vous le dire, ils s'entendent bien, ça leur arrive de discuter, de se côtoyer, mais c'est juste que il y a un cadre qui est fixé et qu'ils se fixent eux-mêmes, c'est pas le club qui le fixe. Ils ne peuvent pas apparaître ensemble sur des photos ou des vidéos. C'est-à-dire que c'est pas que c'est interdit, leur pays leur reprochera et ça c'est problématique.
Je vois ce que tu veux dire, mais après quand t'es collègue de travail, t'as des objectifs communs, vous avez un but à atteindre.
Après, ils ont de la famille tous les deux, et en Ukraine et en Russie, vu la situation,
il y a des moments où il faut mettre des parenthèses.
Mais je suis entièrement d'accord avec toi.
Ça reste un sport. Le football, ça permet de partager des choses, de réunir plein de gens. Et c'est vrai que l'état politique en ce moment, il faut faut le mettre entre parenthèses. Après, j'ai pas envie de rentrer non plus.
Non, mais c'est la question était légitime parce que c'est vrai que cette scène a paru.
Mais je savais pas que ils avaient pas le droit de se filmer ensemble. Ça je ne savais pas.
En fait, c'est le simple fait qu'ils apparaissent ensemble, c'est problématique pour leur pays. Pas pour le Paris Saint-Germain. Si le Paris Saint-Germain pouvait les montrer ensemble, ils seraient très contents. Et d'ailleurs, ça leur arrive d'être ensemble. Ouais. Mais ils savent que si quelque chose comme ça sort, derrière, c'est les joueurs qui ont des problèmes. Que ce soit Matvey Safonov ou que ce soit Ilya Zabarni. C'est problématique pour les deux pays.
Là, parce que l'image, elle était un peu choc.
Moi,
j'étais surpris, quoi, de voir les deux joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, de s'entraîner ensemble, de pas se serrer la main. Mais maintenant,
on comprend
grâce
mieux,
à l'explication, je comprends mieux. Beaucoup mieux.
Voilà, merci. Arthur Perrault qui a réponse à toutes nos interrogations.
Je suis pas sûr non plus.
Qui sait tout presque. Merci Arthur.
Merci Christophe. À tout à l'heure.
Merci
Tu vas à l'Élysée.
Ah toi, tu vas à l'Élysée donc.
Oui, avec Morgane Maury.
Va mettre une cravate alors parce que tu rentres pas comme ça.
Une chemise.
Avec ton costume, on dirait un chinois de Mao, à l'époque de Mao. Non mais il est magnifique. Il est magnifique, les petites lunettes.
Tu penses que ça passera?
Je pense que tu veux.
Il est beau Arthur. Il est beau.
Bon, je change rien là.
Il est pas mal. Ne change rien et bonne Élysée et ne mange pas trop de petits fours, c'est mauvais pour ce que tu as. Allez, 15h29, on reste sur RMC, l'intégral sport, évidemment, pour fêter le retour des héros du Paris Saint-Germain, vainqueur hier soir de leur deuxième Ligue des Champions. Ils sont en vol en ce moment entre Budapest et Paris et devraient atterrir d'ici une petite heure. On va également aller faire un tour à Roland-Garros. Il n'y a plus de Français, il y en aura une demain, mais on s'est régalé notamment hier avec Moïse Kouamé, même si le match a été un peu pris en étau par le match du Paris Saint-Germain. On en parle dans quelques instants avec Eric Salio, justement. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Dembélé qui frappe. Oui,
Christophe Cessier.
Voilà, Jean-Louis Tour en folie, c'était hier soir sur RMC, cette finale de Ligue des Champions, la victoire du Paris Saint-Germain à l'issue de la séance des tirs au but. Les Parisiens qui sont actuellement dans l'avion, ils ont décollé de Budapest avec pas mal de retard, ils sont attendus d'ici une petite heure à Roissy où beaucoup de monde les attend. Notre envoyé spécial David Alias est sur place, la moto RMC va suivre le cortège du Paris Saint-Germain direction le Champ de Mars où là aussi on a les images qui nous arrivent du Champ de Mars. C'est déjà la folie avec un nombre incroyable de supporters, de spectateurs qui est là et qui attendent évidemment les héros de Budapest. De l'autre côté de Paris, il y a une belle ambiance également du côté de Roland-Garros. On va retrouver Eric Salio et Florent Serra qui sont avec nous pour suivre ce dimanche de Roland-Garros. Salut les garçons.
Salut Christophe, salut à tous.
Salut Christophe, bonjour.
Bon, alors on va faire un petit point sur les matchs en cours déjà avec la qualification de Madame Monfils. On va l'appeler comme ça maintenant, Elina Svitolina, hein. C'est Madame Monfils.
Elina Svitolina qui vient d'éliminer la Suissesse Belinda Bencic en 3-7, 4-6, 6-4, 6-0. Ça veut dire, Christophe, et là attention, c'est un scoop énorme, qu'il y aura une Ukrainienne en demi-finale de Roland-Garros, puisque dans deux jours, Elina Svitolina retrouvera Marta Kostyuk qui ce matin a créé la surprise face à Iga Świątek. Victoire de Kostyuk en deux manches Flo 7-5 6-1. Kostyuk qui est invaincue cette année sur terre puisqu'elle a remporté Rouen, Madrid et donc Roland, ça fait un paquet de victoires consécutives.
Ouais, mais elle était solide et Iga Świątek qu'on attend sur terre bien sûr, parce qu'on sait ce qu'elle peut donner à Roland. Elle était un petit peu plus irrégulière, un petit peu rattrapée aussi de temps en temps par ses émotions. Et puis ça veut dire aussi qu'on aura un nouveau vainqueur chez les garçons.
Exactement.
Et un nouveau vainqueur chez les filles.
Ah oui, vainqueur inédit, c'est sûr. Là, c'est
dès dimanche, on est capable de sortir une telle affirmation.
Oh là, c'est incroyable, hein, ça.
Première semaine.
C'est dire si c'est Roland-Garros, c'est quand même étonnant, bizarre même. Hein.
Oh non, c'est un Roland-Garros de dingo. Moi, j'ai envie de dire que c'est le chaos permanent et on n'est peut-être pas à l'abri d'une nouvelle surprise. Pourquoi? Parce que sur le cours Suzanne Lenglen, Raphaël Rodard, qu'on présentait quand même comme un sacré outsider, il est mené deux manches à zéro par Pablo Carreño Busta. 34 ans, PCB, finaliste des Jeux Olympiques à Tokyo. Il mène 2-0 face à Rodar et ça personne l'avait prévu, Flo.
Ouais, après il a beaucoup donné aussi hein, Raphaël Rodar sur ses premiers tours, un petit peu.
C'est celui qui renverse les ramasseuses de balles, c'est ça ?
Ne l'a pas touché.
Ouais, mais je me méfie quand même parce que j'aimais beaucoup ce garçon là depuis la Next Gen et même à Rome, je l'ai vu très mal parler à un ramasseur parce que bon, c'est des conditions pas faciles parce que il y a sa serviette ou son ice towel là qui venait pas assez vite. Plus cette image là, Eric, moi je demande confirmation maintenant. Je veux voir la suite. Je sais pas s'il a l'air si sympa que ça, c'est adorable, mais moi je demande à voir.
La première vidéo est troublante. Ouais. Il y a un deuxième angle qui montre que la jeune fille.
Elle se prend les pieds dans la bâche, c'est ça, ouais, elle tombe en arrière. Ouais. Ouais, bon, enfin, ouais.
Pas d'élite de sale gueule, s'il vous plaît, pour Rodar.
Mais c'est pour ça qu'on demande à voir. On va attendre un petit peu.
En tout cas, lui, s'en expliquant en conf, il a totalement démenti.
Oui, j'ai vu ça.
Pourquoi tu nous amènes là-dessus ? C'est pas sympa.
À Rome, j'ai pas démenti, j'ai trouvé ça moyen.
Ben voilà, parce que t'as vu, Florent. Avait des choses à reprocher quand même à Rodar. Rodar ou Jodar ? Jodar, c'était le nom d'un footballeur dans les années Rodar. 70. Mais c'est pas pareil, c'est pas le même. Ok, donc Rodar qui est quand même en grande difficulté. Alors, quand on regarde le nom des joueurs qui restent, il y a plus grand monde de connus quand même là, les gars. Qui sont les futurs stars là, de la deuxième semaine de Roland-Garros ? Qui va nous régaler ? Qui va justement...
Pardon, je te renvoie la question. Tu connais qui alors parmi les rescapés?
Je connais Zverev.
Ouais. Ouais.
C'est déjà pas mal. Je connaissais Rodar justement ouais. De par ce.
C'est bien.
Hein, après Tiafoe. Hein, ouais. Il est assez connu celui-là.
Ouais, connu.
Attends, je cherche ma liste parce que j'ai plus la liste là.
Fonseca, Ruud, tu les connais quand même.
Oui, Ruud évidemment. Casper. Ouais.
Auger-Aliassime, tu connais.
Auger-Aliassime.
Berrettini, voilà. Tu connais.
Bah voilà, avec ça,
il les connaît tous. Tous.
Ah ouais, je les connais presque tous du coup finalement. Non, mais je connaissais moins, tu vois, qui est Cerundolo, machin, Arnaldi, Tabilo qui a battu Kouamé. C'est bien dommage quand même ça hier parce que franchement, Moïse nous régalait.
De Jong, tu connais pas?
Ouais, moyen. Il y avait un footballeur qui s'appelait De Jong, non? C'est ça?
Ouais,
c'est pas la même famille.
C'est pour ça que tu dis moyen, en fait. Parce
après, il y a Fonseca. Fonseca, celui-là, celui qui a fait tomber.
Ça, c'est un cas intéressant.
Ah ouais, ça, c'est un cas intéressant.
C'est presque une petite finale, là.
C'est ce soir, d'ailleurs. Hein
oui, ce soir. Ouais.
Ouais. En night session contre Ruud.
En night session.
Ouais. Bon. Et bah voilà, quand même, ça fait encore un peu de monde.
Peut-être, parce que Zverev, il a une énorme pancarte dans le dos, Christophe. Tu le sens bien, d'ailleurs, il va rentrer sur le court.
Numéro 3 mondial.
Il rentre sur le central. Zverev, il y en a qui disent ici dans les salles de presse, mais s'il n'arrive pas à gagner, il faut qu'il change de métier. C'est très exagéré quand même.
C'est terrible. Ouais, c'est un peu exagéré, c'est vrai.
Bah là, tout est écarté devant lui. Tout a été nettoyé. On a bien éclairci les lignes.
C'est comme au curling, c'est le mec qui balaye devant. Là,
ouais, c'est ça.
C'est ça, parce que lui, il n'a pas passé beaucoup de temps non plus sur le terrain. Il y a quand même Quentin Alice qui était breaké, qui revient, qui lui prend le troisième set parce que là, il s'est réfugié dans un système de jeu en plus ultra défensif. Et Quentin a pas mal joué le coup. Et il arrive quand même à lui prendre un set. Mais Zverev a montré de la fébrilité. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, au niveau physique, il n'a pas eu besoin de trop pousser par rapport par rapport à tous les joueurs. Hein. Quand tu vois Fonseca, Ruud, ils ont passé quand même beaucoup de temps sur le terrain. D'ailleurs, sur Roland, en termes de 5-7, on se plaignait l'année dernière d'avoir vu que la finale, entre guillemets, monumentale. Cette année, on n'est pas déçus.
Ouais, attention, il y a peut-être un changement de temps aussi. Hein. Il fait moins chaud aujourd'hui. On annonce un peu de pluie dans la semaine. Ça peut aussi changer pas mal de choses hein, dans la façon de voir. Je pense que Sinner aurait préféré le temps qu'il y a aujourd'hui la semaine dernière quand même. Hein. Mais bon.
Ouais, mais il a pas de tournoi là, cette semaine.
Ah, il n'a pas de tournoi, mais il va pas se reposer un petit peu.
Il est en train de faire des examens pour voir ce qui cloche dans le corps de Sinner et on ne le reverra pas avant un bout de temps puisqu'il n'aura pas de tournoi préparatoire avant Wimbledon. Donc tu vois, là, il va essayer de trouver ce qui ne va pas. Et puis il reprendra, il fera une semaine d'entraînement à Wimbledon, mais il ne jouera pas de tournoi avant.
Un petit mot quand même. On en parlait avec Souley Diawara qui est avec moi, qui s'intéressait à ce jeune, à cette jeune pépite française qui nous a régalé encore hier. Alors c'est vrai que malheureusement, Eric, Florent, les gens qui sont passionnés de sport hier ont dû partager leur écran. Moi, je regardais le match à la télé et j'avais sur mon téléphone le match de Moïse Kouamé. Mais c'est terrible de faire ça à ce garçon de 17 ans qui a été vraiment presque sacrifié. Je suis désolé, moi ça va.
Non,
ça
mais
m'a
tu as raison, la programmation a étonné tout le monde.
Ouais.
C'est vrai qu'on aurait pu éviter le carambolage. Alors, on n'est pas dans les dans les arcanes de la salle où la programmation a été faite. Il y a peut-être eu des exigences, des télés, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que nous-mêmes en radio, c'était frustrant puisque Jean-Louis m'a donné de temps en temps la parole parce que. Mais ça s'est fait de manière intelligente. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé commenter un peu plus longuement ce match qui était sympa parce que il n'est pas passé loin de recoller à deux manches partout, Moïse. Et on a eu comme invité Laurent Raymond dans le Stephen Brunch. Et Laurent était convaincu que s'il y avait un cinquième, il nous l'a dit en off, Tabilou avait des crampes. Il avait des crampes. Oh là là. Donc ça s'est joué à quelques points.
Il a sauvé 4 balles de match et malheureusement, il n'a pas réussi à se procurer une balle de débreak. Enfin, donc ça n'a pas fait. Mais Souley, tu l'as regardé un peu jouer, ce gamin, 17 ans.
Le dernier set hier, comme tu disais tout à l'heure, j'avais la télé, je regardais la finale et le match de Moïse
Kwame,
je le regardais sur le portable. J'ai réussi un peu à suivre le dernier set, mais j'avais pas regardé avant parce que c'est vrai que j'étais beaucoup occupé cette semaine. Mais parce qu'on parlait souvent de ce jeune prodige et je voulais voir de mes propres yeux
ce que ça donnait,
ça avait l'air d'être très intéressant, même si malheureusement il perd ce match et puis il sort de cette compétition. Mais ça avait l'air d'être très intéressant. Je vais commencer à me pencher sur le tennis et regarder le petit Kwame.
Ouais, je pense d'ailleurs que tout le pays s'est découvert un futur héros, hein, Eric et Florent, parce que ce garçon a vraiment tout pour plaire. Non seulement il joue bien, en plus il est sympa, il tchatche bien, sa famille est top. Enfin franchement, il a tout pour plaire, quoi.
Et puis il faut qu'il aille à son rythme. Là, on discutait aussi avec Laurent. Et je le disais hier à Laurent Raymond, là, donc qui s'occupe un petit peu de lui aussi. Et il ne faut pas faut pas que vous vous attendiez à le voir tout de suite.
Oui,
ce
n'est pas tout de suite, d'ici 2-3
voilà,
ans.
Peut-être,
ouais.
Si les tableaux à Wimbledon, peut-être qu'il ira. Après, comme je le disais à Eric hier, il risque de faire l'impasse sur gazon si c'est pour jouer les qualifs et tout. Et Laurent Raymond était d'accord là-dessus. Il dit on le reverra peut-être à l'US Open et tout. Et entre-temps, tu as plein de tournois Challenger à jouer. Il faut qu'il se renforce encore là-dessus, qu'il apprenne encore son métier.
Quoi.
Et c'est pas parce que vous n'allez pas le voir tout de suite sur les gros tournois là qu'il faut s'inquiéter. Comme je disais, le plus important c'est le physique aussi. On a vu qu'il pouvait tenir longtemps, maintenant c'est qu'il puisse enchaîner des matchs, des saisons pleines, donc qu'il prenne soin de son corps, qu'il se renforce encore. Il nous disait qu'il avait encore bien sûr les cartilages de croissance et tout, donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Et dès qu'il
va encore grandir, il mesure déjà 1m91, ça,
ouais,
c'est une belle bête, hein.
Ouais, c'est une
belle bête, oui.
À 17 ans, on grandit encore, hein, mais ils ont raison, c'est vrai, ils ont raison. Faut pas
se brusquer les choses.
Parce que nous, quand on voit un phénomène, c'est vrai qu'on veut vite le voir partout, aller à Wimbledon, alors que c'est peut-être pas le moment. Est-ce qu'il est prêt physiquement? Est-ce que mentalement il va réussir aussi? Parce que je pense que c'est le tennis aussi, c'est aussi le mental comme le football, comme tous les sports. Donc ils ont raison d'aller petit à petit avec ce petit-là et après être patient et pourquoi pas aller le voir dans le top 10 ou...
il a affiché ses ambitions, il veut gagner les 4 tournois du Grand Chelem,
c'est bien, comme mais ça, sans brûler les étapes comme ils l'ont dit.
Ouais. Très bien, Eric Florent,
si vous êtes fan, allez à Lyon le 9 et 10 juin, il jouera le Challenger de Lyon, c'est toi de Lionel Roux, donc là
c'est sympa, voilà, ça va permettre de vendre des billets, ça, hein. La présence de Moïse Kwame. À tout à l'heure, Florent et Eric, donc Rodard qui est toujours en difficulté, même si ça va un peu mieux dans la troisième manche. Hein, Eric, je crois qu'il a repris un peu du poil de la bête là.
Il mène 4-1 Rodard dans le troisième.
Très bien. 15h44 sur RMC. On revient dans un instant. Tiens, on va fêter un autre héros français dans quelques instants. Un certain Victor Wembanyama. Je sais pas si tu as vu ça là aussi,
ouais,
sous les...
de suivre un petit peu.
Il faut plus dormir du tout, quoi. C'est à 2h30 jusqu'à 5h30 du mat.
C'est un peu long.
Mais il s'est qualifié avec les Spurs pour la finale NBA. On sera avec son ancien entraîneur Pascal Donadieu, celui qui lui a mis le pied à l'étrier ou la main au panier plus exactement. Il sera avec nous dans quelques instants. Et tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Il s'arrête dans sa course, qui frappe.
Oui,
il l'a raté.
Christophe Cécile.
On réécoute évidemment régulièrement ce qui s'est passé hier soir, la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Nous sommes toujours dans l'attente de l'atterrissage de l'avion du PSG qui est en vol depuis Budapest jusqu'à Paris. Il devrait se poser dans quelques minutes. Tiens, on va refaire un petit tour au Champ de Mars. On va retrouver Pierre Thévenet qui est à côté du DJ, évidemment. Pierre Thévenet, dès qu'il y a un peu d'ambiance, dès qu'il y a matière à se déhancher, à faire un peu la fête, il est là. Salut Pierrot.
On travaille, Christophe.
Ah oui, c'est, avant oui, tout c'est ça. Mais ben, je sais.
Oui, exactement. On est devant la scène où il y a le DJ Mid qui est en train de mixer pour attendre, faire patienter les supporters en attendant les joueurs parisiens. Juste sous la Tour Eiffel, le cadre est assez incroyable. Toutes les zones, tous les blocs se sont remplis de spectateurs et les joueurs parisiens arriveront. On ne sait pas trop quand, on attend qu'ils atterrissent, mais depuis le fond du Champ de Mars à l'école unitaire, et ils remonteront sur 450 mètres à pied, cette fois-ci contrairement à leur voyage en bus l'an dernier, pour terminer donc sous la Tour Eiffel sur une estrade, un peu comme on l'avait fait lors des Jeux Olympiques, et pour venir célébrer ce moment avec entre 85 et 90 000 supporters qui sont là cet après-midi.
Ça va être une énorme ambiance à l'arrivée des joueurs. On ne sait pas trop. Est-ce qu'on a une idée approximative de leur arrivée au Champ de Mars, Pierre? Est-ce que tu as des...
Non,
ce
sera environ 3/4 d'heure ou 1 heure après leur atterrissage à Roissy. Donc, aux dernières infos, il me semble qu'on annonçait 16h45 à Roissy. Ouais. Donc, sans doute autour de 17h30, peut-être, on pourrait les avoir au Champ de Mars environ.
Très bien. Bon, eh ben, nous verrons ça à tout à l'heure. Oui, je regarde sur mon application Flight Radar et je vois effectivement que le vol n'est pas est loin d'arriver. Ils survolent actuellement l'Allemagne. Ils sont pas loin de Stuttgart, tu vois, pour te savoir. Donc, ils sont pas encore au Champ de Mars. Hein. Donc, il va falloir attendre quelques heures encore avant de les voir. T'as de quoi aller boire une petite bière et faire la fête et danser en attendant les joueurs du PSG. À tout à l'heure. Pierre Thévenet, l'un de nos envoyés spéciaux, il y en a partout. Nous sommes partout. Nous sommes à Roissy, évidemment, au Champ de Mars, où ils sont 3 ou 4. Il y en a qui sont à l'Elysée. On vient de voir ça avec Arthur Perrault, qui est allé mettre une cravate pour aller serrer la main du président. Et puis, il y en a d'autres, évidemment, qui seront au Parc des Princes tout à l'heure pour cette grande fête qui va mettre du temps à s'achever. 15h49. Alors, le PSG s'est imposé. Et puis, quelques heures plus tard, pour les plus courageux, que les plus courageux ont vu en direct, il y a eu, évidemment, ce match 7 de la finale de conférence NBA et la victoire des Spurs de Victor Wembanyama qui se sont imposés face aux champions sortants et qui ont donc décroché leur billet pour la finale NBA qui aura lieu dans quelques jours face à New York. Match mythique entre les Spurs et les Knicks de New York. On en parle avec Pascal Donadieu qui est avec nous, l'ancien entraîneur de Nanterre qui est aujourd'hui directeur sportif de cette équipe qui est aussi en place dans le staff de l'équipe de France et qui a la particularité d'avoir été le premier à mettre Wemby sur un parquet chez les professionnels. Bonsoir, bonjour Pascal.
Bonjour.
Bon, j'imagine la fierté que ça doit être pour vous de voir votre petit protégé, enfin petit, évidemment petit par l'âge, hein, puisqu'il a encore que 22 ans, mais de le voir là, au sommet du basket mondial. Parce que battre le champion sortant dans sa salle et se qualifier pour la finale NBA, c'est un rêve éveillé que le basket français et que Victor vivent en ce moment.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, bien sûr, le potentiel de Victor, tout le monde le connaît et tout le monde le mesure. Je crois qu'aujourd'hui, sa plus grande fierté et donc la nôtre pour le basket français, c'est qu'il a été capable de porter l'équipe sur ses épaules et donc d'avoir des objectifs collectifs. C'est un garçon, bien évidemment, qui a toujours été un joueur hors norme, mais qui a toujours privilégié les résultats collectifs alors qu'il faisait des statistiques fantastiques. Donc je pense qu'il doit être aujourd'hui pleinement heureux de la réussite de son équipe.
Oui, alors il est très collectif, mais malgré tout, il est le symbole de cette équipe et ses stats sont incroyables, Pascal. C'est lui qui porte le projet des Spurs, en tous les cas, sur les parquets. C'est à lui que les Spurs doivent leur victoire, même si évidemment ses coéquipiers ont aussi fait le job. Mais quelle influence il a sur le jeu de son équipe?
Ah bah tout à fait. De toute façon, il remplit toutes les cases. C'est-à-dire que il est capable de mettre des points, de prendre des rebonds. Il a surtout cette faculté, cette intelligence de s'adapter aux adversaires et de pas forcer les situations. Mais bien évidemment, quand on voit aujourd'hui où étaient les Spurs encore il y a 2-3 ans, où il y avait bien évidemment beaucoup de joueurs emblématiques et historiques qui avaient pris leur retraite. faire ce qu'il a fait en quasiment deux saisons, bah, les remettre au plus haut niveau, c'est fantastique, parce que bien évidemment c'est le leader de cette équipe, et il faut pas oublier qu'il est né en 2004 et que bien évidemment il est encore très très jeune.
Pascal, vous attendez l'arrivée de l'avion du PSG. J'entends le petit jingle de l'aéroport de Paris. Vous êtes là avec les supporters ou non?
Oui, alors. Non, je pars pas malheureusement pour les finales NBA. C'est juste que Nanterre ont fait une super saison et on joue demain en demi-finale du championnat contre Monaco.
Ah ben oui, évidemment. Match important demain soir à vivre avec cette équipe de Nanterre. Victor est resté très attaché d'ailleurs à ce club, hein, Pascal. C'est le club qu'il a formé quelque part avant qu'il parte du côté de Villeurbanne, qu'il parte ensuite en draft et de l'autre côté de l'Atlantique. Mais il reste très attaché à son club d'enfance presque.
Oui, ça aussi, mais ça ne m'étonne pas du garçon quand on le connaît. C'est que il a absolument voulu garder des racines et participer au fait que Nanterre continue d'exister et bien exister. Donc il nous a rejoint en tant que actionnaire il y a quelques semaines.
Ouais.
Et puis bien évidemment, je pense qu'il est très attaché à ce que le club où il a passé le plus de temps en France et qu'il a formé, il renvoie un petit peu l'ascenseur, mais c'est quand on connaît le garçon, forcément, on sait que voilà, ça fait partie de ses valeurs.
Bon, et puis vu le contrat qu'il va signer dans les années prochaines, ce sera un investisseur sérieux à mon avis, solide. Hein, il va pouvoir mettre des billes à Nanterre, de sacrées grosses billes.
Oui, mais je crois que si vous voulez, pour avoir un petit peu échangé avec lui. Au-delà de, parce que tout le monde nous dit, vu son contrat, mais je crois que c'est avant tout un message fort qu'il envoie. C'est pas nécessairement la somme qu'il va nous donner, c'est plus l'impact de savoir que Victor veut participer et faire grandir son club.
Ouais. C'est important évidemment d'être attaché à ses racines, de savoir d'où l'on vient. Lorsque vous l'avez mis sur le parquet pour la première fois, donné du temps de jeu dans un match professionnel, vous imaginiez, Pascal, qu'il puisse avoir une telle trajectoire? Elle est annoncée depuis toujours, cette trajectoire, mais de là à satisfaire à chaque fois, à chaque étape qu'il passe, il rend une copie parfaite. C'est dingue d'être attendu et de répondre présent à chaque fois.
Oui, ce qui m'avait épaté, c'est que ça faisait partie des années où Nanterre, on était un petit peu en difficulté. Et donc, j'ai fait le pari, il avait 16 ans et demi, de le mettre sur le terrain. Et tout de suite, dès le premier match, ce qui m'a vraiment épaté, c'est qu'il a été très impactant. J'ai vu le regard des adversaires changer, parce que je crois qu'en 5-6 minutes de présence sur le terrain, alors que c'était son premier match professionnel, il avait déjà fait 2-3 blocs. Et donc... Il s'est tout de suite adapté. Encore une fois, il aurait pu se réfugier derrière le fait de faire de grosses statistiques tout au long de sa jeunesse et de sa carrière. Mais je crois que ce qui le satisfait le plus, c'est de gagner et de montrer que sa présence au sein d'une équipe fait que l'équipe gagne. Et je crois que c'est pour ça que il est très heureux, en sachant que la première année des Spurs a été un peu plus compliquée et que là, il se retrouve en finale et donc c'est forcément magnifique.
Bon, et alors il y a les Spurs, il y a cette finale qui va nous emmener sans doute assez loin dans le mois de juin. Derrière, il y a aussi peut-être l'équipe de France. Là aussi, on le dit, très attaché au maillot de l'équipe de France. Il a porté d'ailleurs le maillot bleu à 15 reprises. On se souvient évidemment de ses prestations lors des Jeux. C'est pas toujours évident de concilier une carrière en NBA et une carrière en équipe nationale, hein, puisque les calendriers ne sont pas du tout faits pour. Malgré tout, vous espérez, Pascal, le faire jouer en équipe de France cet été? Il y a des matchs de Coupe du Monde, je crois, qui sont importants. Il y a deux phases, je crois, en juillet et en août.
Oui. Alors déjà, effectivement, il est très attaché à l'équipe de France. Bien évidemment, la première étape, il ne pourra pas la disputer. Et ça, on l'avait anticipé, surtout avec Freddy Fautou, depuis longtemps. Mais normalement, il devrait participer à la deuxième au mois d'août. Et je sais qu'il est très attaché à l'équipe de France, il l'a montré aussi dans les catégories de jeunes. Et puis je pense qu'il y a des objectifs comme la Coupe du Monde l'année prochaine et les Jeux Olympiques aux États-Unis après. Ouais. Je pense que pour lui, c'est des gros défis, mais c'est des défis qu'il relèvera, parce qu'encore une fois, je pense qu'il a le double projet d'être performant en NBA, de gagner des titres et à la fois de faire gagner l'équipe de France. Et dernièrement, on a fait des performances, notamment au JO, on a été double vice-champion olympique, mais le Graal absolu, je pense que dans un coin de sa tête, c'est quelque chose
qui... Taper les Ricains chez eux, ce serait magnifique, ça. Ce serait magnifique. Et puis là, ça va prendre une ampleur. Les Jeux Olympiques, le tournoi de basket aux États-Unis à Los Angeles. Déjà que le basket est un sport majeur, mais là, je pense que pour les Jeux, ce sera le tournoi et la compétition la plus attendue, hein, Pascal.
Ça va être énorme. Je pense que ça va être énorme.
Bon. Pascal, on vous souhaite un bon match demain avec Nanterre face à Monaco. Et puis donc en équipe de France très bientôt, puisque vous êtes dans le staff de Freddy Fautou après avoir épaulé Vincent Collet et d'autres auparavant. Merci Pascal Donadieu.
Merci.
Et bravo
merci
pour le boulot que vous faites et que vous avez fait par le passé avec Victor. Vous avez donné à la France et au basket français une sacrée pépite. Merci beaucoup Pascal.
Ouais, c'était pas très dur. Parce que beaucoup de gens auraient pu le faire à ma place. Merci beaucoup.
Merci Pascal Donadieu. Voilà. Premier coach important, hein, Soulet. On se souvient toute sa vie de son premier coach, celui qui te met le pied à l'étrier comme ça.
Ouais, bien sûr. Moi, je me souviens de mon premier coach, de celui qui m'a permis de réaliser une carrière. Jean-Marc Nobilo, je le cite tout le temps, parce que c'est vrai que sans lui, j'aurais peut-être pas fait carrière.
C'était à quel endroit?
Au Havre.
C'était au Havre.
Ouais. Ah, et il y a que lui qui avait confiance en moi. Exactement. Et voilà, ouais, c'est sûr qu'on se souvient tous de notre premier entraîneur.
C'est important. Voilà, 15h58, les infos de 16h arrivent dans un instant. Et ensuite, eh bien, on continue d'attendre l'arrivée des héros, le retour des joueurs du Paris Saint-Germain qui survolent l'Europe et qui atterriront dans à peu près une heure, maintenant un peu moins, du côté de Roissy où ils sont très attendus, puis du Champ de Mars, puis de l'Elysée, puis du Parc des Princes, enfin partout. Ils vont être partout. Vous allez en avoir plein les yeux avec les joueurs du PSG. Solé Diawara, plutôt marseillais quand même, et je pense qu'il va vite en avoir ras-le-bol de cette histoire. Allez, on revient dans un instant sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Marquinhos qui baisse le trophée et qui va pouvoir le brandir dans le ciel de Budapest. Le PSG conserve son trophée.
Christophe Cessieux.
16h05 sur RMC, nous sommes dans l'attente évidemment du retour de l'avion du Paris Saint-Germain qui vient d'entrer sur le territoire français, qui survole actuellement Reims et qui est annoncé à Roissy, Charles de Gaulle, dans une vingtaine de minutes maintenant. Et ensuite évidemment, direction le Champ de Mars avec un cortège qui va être suivi par des centaines de motos de presse et des centaines, voire des milliers de supporters. On va y retourner dans un instant. Souleymane Diawara est également à mes côtés pour fêter le retour des Parisiens. C'est une torture pour l'ancien Marseillais que de fêter comme ça les Parisiens. Non, je rigole évidemment, mais c'est vrai que ça a dû bien chambrer quand même, Soulé, depuis hier soir, non ?
C'était bon enfant,
ouais, c'est vrai, forcément.
J'ai été regarder le match chez des amis et ils sont tous parisiens, donc j'étais le seul à me lever quand Arsenal a marqué. Et c'est vrai que quand Ousmane Dembélé est égalisé, bah voilà, tu te doutes bien que tous les Parisiens sont tombés dessus.
Voilà, torture, la torture pour Solé Diawara, obligé de parler du PSG en plus sur RMC cet après-midi. Le PSG, on va y revenir dans un instant, on va aller faire un tour au Champ de Mars, on va aller faire un tour à l'Elysée, on sera également à Roissy dans un instant, mais on va aussi s'intéresser au rugby, puisque dans 20 minutes maintenant, coup d'envoi d'un match important de l'avant-dernière journée du Top 14, avec un match qui va opposer le RC Toulon à l'Union Bordeaux-Bègles. On va vivre ce match avec Maxime Tilliette qui est à Mayol. Salut Maxime.
Salut Christophe, salut Soulé, bonjour à tous.
Match important, alors peut-être pas pour Toulon, même s'il faut assurer la place dans les 8 pour espérer disputer la Champions Cup la saison prochaine, mais peut-être encore un peu plus pour l'UBB, une semaine après son titre de champion d'Europe. On a vu que les Bordelais avaient fait une énorme fête depuis lors. Est-ce que notre ami Ben Tameifuna sera présent cet après-midi avec le maillot qu'il avait la semaine dernière ou il est absent?
Non, il a un nouveau maillot. Maillot et il est bien présent là. Il s'entraîne. Il va démarrer sur le banc, mais
t'approches
mais
il est pas bien trop de lui. Il doit bien sentir la bière quand même.
Ouais. Et puis bon, je vais pas me frotter à lui. T'inquiète pas pour ça. Vu le gaillard que c'est. Bon, en tout cas, C'est vrai qu'il y a eu 4 jours de fête pour les Bordeaux-Béglés après ce deuxième sacre consécutif européen, comme les Parisiens d'ailleurs. Donc l'UBB retrouve le championnat. Alors c'est pas exactement le même UBB que face au Leinster, pour être honnête. Il y a seulement 3 rescapés dans le 15 de départ par rapport à celui du week-end dernier en finale de Champions Cup. Pas de Peno, pas de Woki, de Bielbiaré, Lucu démarre sur le banc. Voilà. Et puis en face, Toulon aussi affiche une équipe quand même sacrément remaniée à cause d'une infirmerie bien remplie. Toulon 9e du top 14 qui peut encore entretenir un utopique espoir d'accrocher une place dans le top 8 pour obtenir un ticket européen la saison prochaine, mais c'est quand même assez compliqué parce qu'il faut 2 succès bonifiés pour les Toulonnais et que dans le même temps le Racing bien perdre ses 2 matchs sans prendre le moindre point. Donc voilà, l'enjeu pour Toulon, nous disait Pierre Mignoni, c'est presque et surtout de soigner sa sortie et sa dernière à Mayol avant la saison prochaine. Et puis donc oui, forcément pour l'UBB qui est 6e, l'UBB doit encore valider sa place pour les phases finales. C'est pas fait du tout cette affaire et franchement ça ferait un peu tâche de voir le double champion d'Europe en titre être éjecté du top 6. Alors voilà, les hommes de Yannick Bru veulent entretenir l'espoir d'un doublé et pourquoi pas un Brennus à aller chercher, lui qui leur échappe depuis tant d'années.
Très bien, à tout à l'heure Maxime. Donc coup d'envoi de ce match à 16h30 entre le RC Toulon et l'Union Bordeaux-Bègles. 16h09, vous êtes sur RMC. L'avion du Paris Saint-Germain est donc entré au-dessus du territoire français. Il a survolé Reims et il prend la direction de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il va atterrir dans quelques minutes maintenant. David Alias est à l'aéroport pour RMC. L'ambiance monte petit à petit à Roissy. Tout le monde est, tous les gens sont comme des dingues, non, j'imagine, David?
Absolument, ça monte tout à fait. Tout est prêt ici à Roissy pour accueillir les joueurs du Paris Saint-Germain. Plus d'un millier de motards qui portent des maillots, des écharpes, des drapeaux à l'effigie des doubles champions d'Europe les attendent sur la route et forment un immense cortège. C'est assez impressionnant. Et je suis avec Mohamed qui était à Budapest, qui est allé à Budapest avec sa 306. Il est juste à côté de moi. Mohamed, impatient?
Impatient. De suivre, impatient d'aller avec eux sur Paris. Et surtout, on a vu un peu l'engouement que ça a pris avec la 306. PSG jusqu'à Budapest, 17 heures de route avec une 306 et 1995, c'était compliqué. On revient avec 2 étoiles et puis voilà, c'est comme ça. On est content, on est fiers d'eux et allez Paris.
Voilà, la fête va durer jusqu'au bout de la nuit, c'est sûr, pour les Parisiens qui vont après prendre la direction du Champ de Mars pour le début des festivités. La journée s'annonce magique.
Ah, elle est costaud la 306 quand même, hein, pour aller jusqu'à Budapest.
Elle a tenu.
Elle a tenu, hein, mais j'espère qu'elle va pas tomber en rade entre Roissy et Paris quand même, David. Hein, attention à ce supporter. Mais c'est vrai que les gens poursuivent leur équipe, sont prêts à faire des folies.
C'est ce qui est beau, moi. Ouais. C'est ce que je trouve magnifique quand t'es supporter, peu importe les moyens. Il a une voiture qui roule, elle peut aller jusqu'à Budapest, il a l'aller-retour, allez hop, on prend les copains et on va faire la route tous ensemble et c'est magnifique. En plus de ça, ils ont gagné, donc ils devaient il a dû être rapide, donc c'est bien pour lui et sa 306.
Voilà, la 306 aux couleurs du PSG, donc de retour en France. Corentin Roland, alors il est sur sa moto, la moto RMC, je sais pas s'il est allé à Budapest avec la moto, Corentin, parce qu'il faut que la moto soit prête pour faire Roissy-Paris quand même, Roissy-Champ-de-Mars, hein.
Salut Christophe, non mais il va y avoir déjà du boulot pour Pierre-Alain, notre chauffeur, parce qu'il y a énormément de monde, y compris sur la route. On est un peu dans les zigzags qui entourent l'aéroport de Roissy. C'est un vrai labyrinthe pour se rendre entre les différents terminaux. Et on voit à chaque contrebas, à chaque bord de route, des motards qui attendent et qui veulent être les mieux placés pour suivre ce bus du Paris Saint-Germain, ce car du Paris Saint-Germain plus précisément, qui arrivera dans les prochaines minutes accompagné des joueurs et qui se dirigera vers le Champ de Mars. Donc voilà, il va y avoir un monde absolument fou, une vraie procession de motards pour suivre cette délégation du Paris Saint-Germain et tout ça va se passer dans les prochaines minutes sur RMC.
Ça va être énorme. Soulé, t'as déjà vécu des retours comme ça, des retours de héros?
Ouais, j'ai eu la chance d'avoir vécu ça, notamment quand on a été champion de France.
Champion de France avec l'OM, bien sûr.
Marseille,
je me rappelle de la folie sur le Vieux-Port, on était aux émissions là-bas. Ouais.
C'était incroyable. Il y avait aussi, pareil, à peu près 100 000 personnes. C'était la folie. Donc je comprends un peu quand on parle de ça.
Et oui, vous aviez atterri à Marignane.
À Marignane. Et on a été à la commanderie. et de la commanderie, on est parti à la mairie, mais je crois qu'on a dû mettre au moins 4 heures, tellement il y avait du monde de partout.
Et on avait, le studio AMC était sur le Vieux-Port, et il y avait une folie, c'était une ambiance incroyable. Bon, ça fait un moment qu'ils n'ont plus vécu ça, les supporters marseillais, malheureusement. Un jour peut-être.
Ça va revenir. Écoutez, chaque année, on dit la même chose, donc on espère que cette année, la prochaine saison, on va vivre des meilleurs moments que cette saison passée.
Bon, allez, aux Lakers, ça reviendra. Clément Brossard, lui, il est où? Alors, il n'est pas à l'Elysée. Non, il n'est pas assez chic pour aller à l'Elysée. Au Parc des Princes non plus. Il doit être au Champ de Mars. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit au Champ de Mars, Clément. Comment ça va, mon petit Clément?
Bien vu. Salut Christophe, salut à tous. Bon, on va essayer de se mettre chic, hein, même au Champ de Mars.
Ah, bon.
Évidemment. Non, mais il y a pas mal d'ambiance ici avec le DJ Feder. Donc, le DJ français qui est en train de mettre un petit peu le feu. Ça commence à se remplir encore et encore. Il y a 14 blocs qui seront prévus sur le Champ de Mars. Il y en a 12 qui sont remplis pour l'instant. Donc, les derniers continuent d'arriver. On voit notamment beaucoup de personnes qui arrivent en courant, mais tout le monde aura de la place. C'est une certitude. Et voilà, l'ambiance monte aussi. À chaque personne qui vient ici au Champ de Mars, on donne un drapeau du Paris Saint-Germain, rouge et bleu. Donc, l'image, ça, on est sûr, sera très, très belle. On pourra vous la décrire sur RMC dans quelques minutes. Mais il y aura un super décorum et ça commence à se remplir. Moi, je suis au niveau de l'école militaire, juste en face de la Tour Eiffel, pour être très exact. Et donc, 12 blocs sur 14 pour le moment remplis.
Bon, ben voilà, il ne reste plus que 2 blocs à remplir. Et il va falloir se dépêcher. Hein. Si vous voulez voir les héros de Budapest, il faut vite se dépêcher d'aller au Champ de Mars. Après, ce sera full. Tiens, on reste au Champ de Mars. On était avec Kevin Morand qui se trouve justement en compagnie de supporters du PSG, Kevin.
Oui Christophe, il y a un DJ là sur la scène devant la Tour Eiffel qui met la musique, met l'ambiance pour occuper les nombreux supporters qui sont désormais dans ces premiers blocs les plus proches de la scène. Et je suis avec Yacine et Adrien. Bon, alors messieurs, vous êtes parfaitement placés là pour voir les doubles champions d'Europe.
Ah, c'est magnifique, on est aux premières loges là en face de la Tour Eiffel. Le décor est parfait, la journée est parfaite. Merci Paris.
Adrien, c'est quoi le sentiment là, encore presque 24 heures?
Ah, franchement, heureux, on n'y croit pas vraiment, c'est incroyable. On espère vivre ça encore de nombreuses années parce que c'est vraiment incroyable.
T'es obligé de venir là les célébrer cet après-midi au Champ de Mars?
C'est un devoir de supporter. Et on a tellement galéré depuis des années, on en est là aujourd'hui, c'est que du bonheur, c'est un rêve. Pour nous, c'est un rêve de gosse. Hein. On a vécu les années sombres et aujourd'hui, on est sur le toit du monde. On est la meilleure équipe du monde. Et merci au Paris Saint-Germain.
Vous attendez à quoi là cet après-midi quand ils vont arriver?
Ah, ça va être le pourri. On n'a jamais vu ça. Dans aucune ville au monde, il n'y a jamais eu ça. Devant le plus beau monument du monde. C'est magnifique, magnifique.
Merci, profitez bien, messieurs.
Merci, bonne fête à toutes les mamans.
Et j'espère que vous êtes prêts à attendre encore un petit peu parce que ça va arriver.
On va tout donner. On va leur montrer qui on est.
Alors on est prêts à attendre ici tant qu'il faut pour célébrer les doubles champions d'Europe, Christophe.
Merci, Kevin. Soulet, t'entends des trucs incroyables.
Oui, ils viennent de. Il a dit, on n'a jamais vécu ça dans aucune autre ville, mais oui, à Marseille, on a déjà vécu ça.
À Marseille, il y a Madrid, évidemment, Milan, dans toutes les villes qui ont été sacrées championnes.
C'est vrai que, comme il l'a dit, ils ont tellement galéré que les supporters, ils ont tellement été déçus que là, ces deux dernières années sont récompensées de toutes les années de galère. Donc, c'est pour ça qu'ils sont contents, ils sont euphoriques. Mais c'est bien parce que il y aura une bonne ambiance, sera la fête, et en espérant qu'il n'y aura pas de débordement, ça reste une fête. Et voilà, il y a des jeunes, des
familles, des enfants, des grands-pères, des parents, des mamans. Voilà, il faut que ce soit la fête. Il faut que le foot, ça reste une fête.
Exactement.
Pas que ce soit gâché par quelques abrutis qui veulent mettre la pagaille. Tiens, on reste au Champ de Mars. On est avec Pierre Thévenet, qui s'est rapproché du DJ, j'imagine encore un peu plus.
Hein? J'ai pas bougé, Christophe.
T'as pas bougé. T'es toujours en place. Non. Il y a un peu de monde là, tu vois du monde sur le Champ de Mars, ouais.
Ah, c'est vraiment plein, craqué de l'avant jusqu'au tout dernier bloc là-bas, le bloc 14 tout au fond, au niveau de l'école militaire. C'est de là-bas que les Parisiens vont arriver tout à l'heure. Sur les écrans géants, on passe des images à la fois des célébrations de la victoire de l'an dernier, également des célébrations du parcours. On a vu des images animées avec le bateau parisien qui allait de stade en stade jusqu'à donc cette victoire face à Budapest. Et on est en train actuellement de retransmettre les meilleurs moments de cette finale. Ambiance assez calme, plus calme je trouve que l'an dernier sur les Champs-Élysées. Il y a moins de
chant spontané de la part des supporters. On écoute les DJ, on regarde les images et on attend surtout patiemment que les joueurs parisiens arrivent.
Voilà, ils vont pas tarder puisque leur avion devrait atterrir dans moins de 10 minutes maintenant à l'aéroport de Roissy. Merci Pierre. Ensuite, il faudra donc prendre la direction du Champ de Mars. Nous allons faire un petit détour par Roland Garros parce que Zverev était quand même mis à mal tout à l'heure en début de premier set par De Jong. Qu'en est-il actuellement, Florent, Eric?
Une demi-heure de jeu ici sur le Châtrier, effectivement. Trois jeux partout entre Jesper De Jong et Sacha Zverev. Mais c'est vrai, Flo, l'Allemand a connu une mise en route un petit peu délicate.
Ouais, et j'ai trouvé très timide au début, pareil, dans des filières de jeu assez défensives, et ce qui a laissé le temps à De Jong de l'agresser, tout simplement. Et il a tout de suite réagi après avoir été breaké. Là, il sert de nouveau mieux et on voit qu'il essaye de pas jouer trop loin de sa ligne. Mais c'est un début un peu compliqué face au lucky loser.
Ouais, parce qu'il avait été battu au dernier tour des qualifs, le Néerlandais, il était repêché. Et puis sur le cours Suzanne Lenglen, ça va beaucoup mieux pour Rafa Rodar, puisqu'il était mené 2-0 par Pablo Carreño Busta, 6-4, 6-4, c'était net. Hein. Il a pris le troisième 6-1 et il est en tête 4-2 dans le quatrième. Ça veut dire qu'on a de grandes chances d'avoir un nouveau cinquième set. C'est hallucinant le nombre de matchs en 5-7 qu'on a à Roland-Garros là, depuis 2-3 jours, notamment la journée d'hier qui a juste été ébouriffante avec un match de 5h58 qui a opposé Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo, le petit frère, hein, pas le meilleur, à l'Andalous, l'Espagnol. 5h58, rendez-vous compte, et le mec sera sur le court demain.
Merci, ouais. Merci Eric et Florent, à tout à l'heure. Voilà, l'heure de torture va s'achever pour Céline Diawara. Il en a marre de célébrer le Paris Saint-Germain. On va le libérer et on va accueillir une autre qui va souffrir elle aussi. Hein. Pareil, les Marseillaises de cœur.
Mais je souffre plus depuis bien longtemps. C'est comme Soulet en fait. Il y a un moment, tu comptes plus les années.
Maintenant, voilà. On a plus mal. Ça fait même plus mal.
Il y a un moment, il faut devenir réaliste en fait, tout simplement. Donc, non, mais hier en plus, c'était très particulier. Mais moi, j'ai préféré, tu vois, la finale 2026 à la finale 2025 parce que au moins il y avait une incertitude totale.
Ah ouais, d'accord, mais enfin au niveau du jeu, on s'en
merde. Mais d'accord, mais à côté de ça, c'est des émotions.
Oui, oui, bien sûr.
Et donc le scénario, si t'es parisien, il est juste royal. T'es mené au score, t'égalises, tire au but et tu finis avec la coupe. Soulet, t'es d'accord?
Ouais. Tout à fait d'accord.
Bon, là, tu étais prête à accueillir le PSG?
Ah bah écoute, j'ai pas le choix.
L'avion est en train d'atterrir.
Et bon, on les attend depuis longtemps, ils sont en retard.
Ouais, ils sont très en retard, mais bon.
Sera là et on va faire la fête, évidemment, avec tous les supporters du PSG, les supporters du foot, et puis la France qui gagne. Parce que c'est vrai qu'hier, on avait un auditeur qui me dit, vous rendez compte, l'UBB, rugby, le PSG en foot et la Coupe du Monde, et ça serait série magnifique.
Et Wembanyama en basket, qualifié pour la finale NBA.
Oui. Bah lui,
et Paul Sexas qui a peut-être gagné le Tour de France.
Il avait son triptyque, c'était attends, l'UBB, le PSG et la Coupe du Monde pour la France. C'était ça son triptyque à lui, voilà.
Bon, eh ben, on n'est pas couché avec tout ça. Merci Karim, merci Soulet.
Merci à vous.
Bon après-midi, bonne soirée pour fêter le retour des héros. Ciao.
RMC Intégral Sport.